RJB Info.
Le journal d'Alexandre Steiner.
Bonsoir, Camille Bloch inaugure son nouveau centre de visiteurs en grande pompe. Plus de 200 invités et journalistes ont assisté à sa présentation aujourd'hui. Nous entendrons le directeur de la chocolaterie dans quelques instants, ainsi que le conseiller fédéral Johan Schneiderhamann et la skieuse Lara Gout qui étaient tous deux présents. La HEPB Jeune et la PH Berne misent sur le bilinguisme. Un nouveau cursus primaire sera proposé aux futurs enseignants dès l'an prochain. Les étudiants passeront 3 semestres à Delémont et 3 autres à Berne. Agir contre le harcèlement sexuel est l'affaire de tous. 2 conseillers nationaux socialistes lancent un appel à l'action pour construire une autre Suisse plus égalitaire et libérée du sexisme. Des bandes de nuages couvriront une bonne partie du ciel de la région demain matin. Quelques gouttes pourraient même tomber par endroits. Une amélioration est prévue l'après-midi. Il fera 18 à 20 degrés au maximum. C'est le bond le plus important de l'histoire de l'entreprise. Ce sont les mots prononcés par Daniel Bloch cet après-midi à l'occasion de l'inauguration du projet Authenticité de la chocolaterie Camille Bloch à Courtelary. Le nouveau centre visiteur chez Camille Bloch est désormais achevé et le bâtiment devrait accueillir 100 000 personnes chaque année. L'ancienne structure a également été agrandie afin de doubler la production de chocolat. Après un chantier de près de 2 ans et un investissement de 40 millions de francs, le projet est finalement arrivé à son terme. Un grand jour pour le directeur de l'entreprise, Daniel Bloch.
Je suis totalement excité. On a créé un centre, on a tout fait, on est prêt pour recevoir dès la fin du mois tous ces visiteurs. Jusqu'à maintenant, on n'a aucun visiteur et puis on compte sur 100 000. Et ce sentiment d'avoir tout fait pour recevoir ces gens et être un petit peu dans l'inconnu, en fait, c'est un sentiment d'excitement.
Vous avez parlé d'un saut pour l'entreprise, l'un des plus importants bonds de l'histoire de l'entreprise. Est-ce qu'on peut parler aussi d'un virage ?
Oui, je trouve que c'est un bon mot aussi de dire c'est un virage. On ne va pas tout droit, il y a des changements. On s'ouvre au tourisme, on s'ouvre à rencontrer des consommateurs qu'on ne connaissait pas, on travaillait via donc, nos clients du détail, et puis on n'avait pas un contact très direct avec nos consommateurs. Là, on renforce ce contact. C'est vrai que les consommateurs ont pu venir voir la fabrication, mais c'est un autre contact qu'on a. Et c'est vrai, c'est un virage. C'est aussi un virage dans notre stratégie. On veut aussi sortir un peu de la Suisse, faire un saut en dehors de la Suisse, et ça, c'est toujours quelque chose de nouveau.
Et une telle inauguration n'aurait évidemment pas pu se dérouler sans l'ambassadrice de Ragusa, la skieuse Lara Gout.
Je suis venue la première fois il y a 5 ans ici, et puis voilà, là, c'est tout qui a changé, tout qui a évolué, et puis je pense, comme disait Daniel aujourd'hui, c'est important qu'on prenne du temps maintenant, et pas seulement des choses matérielles. Et là, je pense que pour les enfants, c'est marrant, il y a quelque chose d'intéressant à prendre. Mais je pense aussi pour tout le monde, c'est une découverte, passer long des années, voir comment une marque comme Camille Bloch évolue, c'est intéressant.
Le conseiller fédéral Johan Schneiderhamann s'est quant à lui joint à l'événement au cours de l'après-midi pour le traditionnel coupé de ruban. Il a salué le courage entrepreneurial dont a fait preuve la chocolaterie Johan Schneiderhamann.
Félicitations à la famille, félicitations à Courtelary. Ça, c'est vraiment ce que nous avons besoin dans ce pays. C'est démonstration de qualité, de volonté de produire et d'être capable de distribuer, de trouver les clients et de se battre contre la compétition. C'est fantastiquement installé ici à Courtelary. J'ai dit à Daniel, je vais plutôt que plus tard avec mes petits-enfants, je vais revenir dans les semaines, les mois à venir sûrement.
Un dossier réalisé par Martha Duarte. Le nouveau centre chez Camille Bloch sera ouvert au public dès le 28 octobre. Les visiteurs pourront y découvrir un parcours interactif qui suit l'histoire de l'entreprise familiale ainsi que le processus de fabrication des fameux Ragusa et Torino. Et des photos sont à retrouver sur rjb.ch et une vidéo de l'événement sera mise en ligne dans la soirée. 3 semestres à Delémont et 3 semestres à Berne, c'est ce que proposera le nouveau cursus primaire bilingue de la Haute École Pédagogique Béjune et de la PH Berne, son pendant alémanique. Il débutera en août prochain dans la capitale jurassienne avant de se poursuivre à Berne. 30 étudiants de Berne, du Jura et de Neuchâtel pourront être formés chaque année. Les premiers diplômes seront délivrés en 2021. Raphaël Lehmann, responsable de la formation primaire au sein de la HEP Béjune, nous présente les avantages de cette nouvelle formation.
Les enseignants en fait recevront un bachelor en enseignement primaire qui leur permet de travailler dans les classes francophones ou alémaniques, des classes tout à fait habituelles. actuelle, mais aussi travailler dans des projets bilingues. Je pense là notamment au projet Prima ou Phoebe à Bienne, par exemple. Et puis d'intervenir peut-être en tant que spécialiste de leur langue avec des élèves de l'autre région linguistique. Donc on va formaliser des choses qui existent déjà. On a en fait actuellement des enseignants diplômés qui traversent les frontières linguistiques et puis qui vont enseigner de part et d'autre de leur région linguistique de départ. Et puis là, l'idée, c'est plutôt de mettre en place un cursus qui valorise ce genre de démarche dès la formation initiale.
Cette collaboration entre deux hautes écoles pédagogiques est une première en Suisse. Jan van Overbeek quittera son poste de médecin cantonal bernois le 28 février prochain. Le conseil exécutif a annoncé aujourd'hui qu'il prendrait sa retraite à cette date. Il avait été nommé à cette fonction le 1er janvier 2014. Jan van Overbeek est notamment connu dans le Jura bernois en tant que directeur ad intérim de Réseau Santé Mentale SA. Il avait déjà annoncé récemment qu'il quitterait cette fonction à la fin de l'année. Dans son communiqué, le canton de Berne remercie Jan van Overbeek pour les services rendus. Des mesures pour encourager les conducteurs à prendre l'autoroute de contournement à Bienne. L'axe est de l'ouvrage sera ouvert au trafic dès le 27 octobre. Cette construction vise à délester le centre-ville de la cité sélandaise. Mais cette ouverture ne permettra pas à elle seule de changer le comportement des automobilistes. La ville a donc édicté 37 mesures d'accompagnement pour canaliser les flux routiers. Le responsable du département des infrastructures de la ville de Bienne nous présente les quatre premières d'entre elles, Roger Raccordon.
La route Marche, route Madretsch, avec le passage Souva qui limite le trafic dans un sens, au giratoire de porte, des feux qui priorisent le bus et qui font maintenant le dosage du trafic. La route Orpon, on a un dosage qui gère le trafic au giratoire, puis au chemin Langfeld qui fait un dosage pour le trafic.
Les citoyens, comment ils ont reçu ces mesures?
C'est clair, ils doivent changer leurs habitudes, hein. Il y a des nouveaux chemins à prendre. Ça veut dire qu'il y a un temps d'adaptation, que les gens ils doivent s'habituer et puis voir que dans l'ensemble, peut-être personnellement, ils doivent prendre un chemin un petit peu plus long pour pouvoir délester le quartier et puis là où ils habitent, augmenter la qualité de vie.
Des propos recueillis par Anthony Montondon et les personnes concernées par ces changements sont invitées à poser des questions et à donner leur avis. Une ligne téléphonique et une adresse mail ont été mises en place à cet effet. Un formulaire peut également être rempli pour signaler d'éventuels problèmes. Vous retrouverez plus d'informations à ce propos en lien sur rjb.ch. Le canton de Berne s'attaque aux actions de distribution de Coran dans le cadre de la campagne LIS, ou LI en français. Il demande aux communes de systématiquement refuser les demandes liées à cette campagne. La direction bernoise de la police et des affaires militaires annonce aujourd'hui qu'elle a écrit une lettre aux autorités communales du canton pour leur demander d'adopter une pratique uniforme dans ce domaine. Elle entend ainsi lutter contre la radicalisation. Il revient à tout un chacun d'agir contre le harcèlement sexuel. Le scandale autour du producteur de cinéma américain Harvey Weinstein provoque des réactions dans le monde entier depuis deux semaines, y compris en Suisse et dans la Berne fédérale. Les conseillers nationaux socialistes Matthias Reinhardt et Cédric Vermouth, âgés de 30 et 31 ans, lancent aujourd'hui un appel à l'action pour construire une autre Suisse. La lutte contre le mobbing et le harcèlement de rue font partie de leurs préoccupations. Mais la responsabilité ne se limite pas au monde politique, selon Matthias Reinhardt.
Déjà, on a un rôle à prendre position, être solidaire, ne plus se taire, briser ses silences. Et c'est un rôle pour chaque personne, finalement, dans notre pays. L'appel que nous lançons, il est lié aussi à un espoir. C'est celui d'avoir notre génération qui peut changer ces choses-là, qui peut amener à une Suisse qui est plus égalitaire, qui est débarrassée de ce sexisme, de ce machisme, dans lequel on est nous-mêmes enfermés en tant qu'hommes, dans ces rôles, dans ces stéréotypes qui sont liés à une vision très machiste de la société.
Pour les deux élus, l'égalité salariale est nécessaire à la lutte contre le harcèlement sexuel, tout comme le congé paternité. On retrouve Matthias Reinhardt.
Dit comme ça, ça semble fou, mais bien sûr que le fait d'avoir ce genre de mesures plus égalitaires, ça amène à une société plus égalitaire, ça réduit ce sexisme et ça réduit tous ces risques de violence, en fait. Une société, quand elle est plus égalitaire, elle est moins violente. Alors, c'est toute une série de petites mesures de ce genre-là qui permettent de réduire cette violence fondée sur le sexe.
Le Conseil fédéral a néanmoins rejeté hier l'initiative populaire réclamant un congé paternité sans y opposer de contre-projet. Le Parlement devra se prononcer, puis le peuple. Les Verts libéraux et le PLR gagnent du terrain selon le baromètre électoral de mi-législature publié aujourd'hui par la SSR. Malgré une baisse de 0,7 point de pourcentage, l'UDC reste clairement le premier parti de Suisse avec 28,7% d'intention de vote. Si les élections fédérales avaient lieu cet automne, le PLR aurait remporté 17,1% des suffrages, les Verts libéraux 5,4% et les Verts 8,1%. Ces derniers auraient ainsi pratiquement rattrapé les pertes subies en 2015. Le gouvernement espagnol poursuit la procédure de suspension d'autonomie de la Catalogne. Il estime que le président catalan, Carles Puigdemont, n'a pas restauré l'ordre dans sa région, ce qui approfondit encore la crise entre Madrid et Barcelone. Un conseil des ministres extraordinaire a été convoqué pour samedi. Il se prononcera sur les mesures qui doivent être prises. Cette décision fait suite à l'expiration de l'ultimatum lancé au président catalan. Carles Puigdemont devait dire avant 10h ce matin s'il avait ou non formellement proclamé l'indépendance de la région. Le dirigeant séparatiste n'a pas apporté la clarification souhaitée par le gouvernement espagnol. Notre correspondant à Madrid, Pierre Querol.
Carles Puigdemont n'a répondu ni par oui ni par non, comme le lui demandait Mariano Rajoy. Cette fois cependant, il a lancé une véritable mise en garde au chef du gouvernement espagnol. Si vous persistez à empêcher le dialogue, écrit-il, le Parlement votera la déclaration d'indépendance. Au fond, c'est lui qui maintenant dicte ses conditions. On voit mal comment Rajoy pourrait éviter ce que l'on appelle ici l'arme nucléaire, c'est-à-dire l'article 155 de la Constitution, un texte qui prévoit de limiter l'autonomie de la région. Mais pour ne pas trop heurter l'orgueil des Catalans, le gouvernement de Madrid tente de trouver une façon modérée d'utiliser ce texte. Ce n'est pas facile, l'autonomie, on la confère ou non, compliqué de la modérer. Des mesures sont envisagées, comme par exemple déposer le gouvernement de Puigdemont ou le vider de ses attributions en nommant des techniciens. Le gouvernement espagnol, sans doute un peu naïf, ou plutôt très hésitant, par crainte des conséquences, le gouvernement espagnol espère encore que le numéro 1 catalan va changer d'avis et revenir à la légalité constitutionnelle.
Des parlementaires suisses en voyage pour parler de l'après-Brexit. La délégation Association européenne de libre-échange Union européenne aux chambres fédérales s'est rendue à Londres pour la première fois depuis la décision du peuple britannique de quitter l'UE. Au menu, les relations futures entre le Royaume-Uni et la Suisse qui dépendront largement des rapports entre Londres et Bruxelles. La nécessité de maintenir le courant commercial avec le Royaume-Uni une fois celui-ci sorti de l'UE est cruciale, selon Didier Berbera. Le conseiller aux États neuchâtelois rappelle que ce pays est le 5e partenaire de la Suisse. Et la première ministre britannique Theresa May a de son côté demandé à ses homologues européens de faire des projets ambitieux pour la suite des négociations du Brexit lors d'un sommet qui s'est ouvert aujourd'hui à Bruxelles. L'UE s'apprête quant à elle une nouvelle fois à pointer les progrès jugés insuffisants. 15 000 enfants de moins de 5 ans meurent encore chaque jour sur la planète, cela en dépit d'une chute remarquable de la mortalité des enfants dans le monde ces dernières décennies. Ces chiffres ont été révélés aujourd'hui par l'ONU. L'organisation déplore des décès évitables. Dans un nouveau rapport, elle relève qu'en raison d'efforts insuffisants de certains pays asiatiques et africains pour faire face à cette mortalité, plus de 60 millions d'enfants de moins de 5 ans, dont la moitié de bébés de moins d'un mois, risquent de mourir d'ici 2030 de maladies que l'on sait traiter.
Il est 18h13 sur RGB.
Sport. L'équipe de Suisse de football pourra compter sur 900 supporters à Belfast. L'ASF, l'association suisse de football, n'a pu obtenir que ce nombre de sésames pour le match de barrage de qualification à la prochaine Coupe du Monde. La Nati se déplacera en Irlande du Nord le 9 novembre. Tous ces billets ont trouvé preneur en 90 minutes. Et le sélectionneur de l'Irlande du Nord n'arrivera d'ailleurs pas en voiture au stade pour accueillir la Nati. Michael O'Neill s'est vu retirer son permis de conduire pour 16 mois. Il a été contrôlé en état d'ivresse il y a un peu plus d'un mois. Le technicien de 48 ans devra également s'acquitter d'une amende de 1670 francs. Tomáš Berdych range sa raquette au placard. Le joueur tchèque de tennis ne jouera plus cette saison. Il a pris cette décision pour soigner son dos. Il en souffre depuis plusieurs mois. Tomáš Berdych ne possédait plus que d'infimes chances de se qualifier pour le Masters de Londres.
Le temps sera sec ce soir et cette nuit. Le réveil demain se fera sous une couverture nuageuse qui très rapidement va se retirer et céder sa place au soleil. La journée sera donc en partie ensoleillée en pleine comme sur les hauteurs. Les températures resteront douces pour la saison. À l'aube, elles oscilleront entre 9 et 14 degrés. Les maximales avoisineront les 20 degrés. Retour de la pluie samedi après-midi.